À tous ceux que je n'ai pas pu saluer ce matin, soyez les bienvenus, que le Seigneur nous bénisse. Merci au Seigneur pour ces moments de louange qu'il nous a donné de partager encore tous ensemble. Merci pour ces moments de partage de la Sainte Seine également, donc c'est important, nous rappelant ce que Jésus a fait pour nous. Et j'aimerais commencer ce moment par un petit témoignage. Lorsque Bernard m'a demandé d'apporter la parole, voilà plus de 2 mois, je ne lui ai pas répondu tout de suite. Il m'a relancé, je ne lui ai toujours pas répondu. Merci pour ta patience, Bernard. J'avais déjà un thème en tête quand il m'en a parlé, mais je souhaitais y travailler un peu avant de donner mon accord. Et quand j'ai commencé à y travailler, une petite voix intérieure m'a dit « Ça n'est pas pour toi. » Et puis le thème que tu vas aborder, ils le connaissent déjà tous. Non, si tu dois apporter la parole, choisis autre chose. Okay. De qui ça venait? Ça pouvait très bien venir de Dieu, qui voulait m'amener à bien réfléchir avant d'agir. Ça pouvait aussi venir de celui qui se déguise en ange de lumière. Difficile à discerner, hein. Alors, durant cette période, quelques dimanches sont passés, et Bernard a fait part à l'assemblée qu'un frère, que je ne connaissais d'ailleurs pas encore, seulement de vue, avait des besoins particuliers. Avec Annie, on s'est dit qu'on allait essayer d'y répondre et nous l'avons invité à déjeuner. Au cours de la conversation, il a notamment abordé un point totalement dans le thème du message que je préparais. Alors qu'il ne savait pas que je devais apporter un message, ni le thème. Quelques jours plus tard, avec Annie, nous rendions visite à une sœur qui, elle aussi, évoqua ce thème, sans non plus savoir que je travaillais dessus, et sans non plus savoir que je devais apporter la parole. Je dis alors, merci Seigneur, ce qui n'empêche pas que l'autre ne lâchait pas le morceau. D'accord ? Et puis, en cours de préparation, j'ai été amené à lire cette parole que Paul dit aux Thessaloniciens. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Alors je me suis dit, ok, j'ai compris Seigneur. Si Paul se permettait de dire et de répéter des choses que les Thessaloniciens connaissaient et faisaient déjà, je peux bien apporter une parole aux angevins qu'ils connaissent déjà. D'accord ? Voilà. Ainsi, on sait que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est Job 33, 14, il peut nous utiliser sans que nous en soyons toujours conscients. Et ce frère, cette sœur, n'était pas conscient qu'ils étaient utilisés en ces moments. Alors n'hésitez pas à échanger avec les autres, soyez à l'écoute, dans vos paroles et les leurs, il peut y avoir des réponses inattendues, bien sûr, à interpréter ensuite avec discernement en confrontant plusieurs sources, dont si possible la parole de Dieu. Amen. Alors, suite à ça, j'ai failli intituler ce message que je vous apporter « Ce que vous connaissez déjà ». Mais j'ai été encore conforté hier soir lors de notre réunion communautaire qui a traité des thèmes du message aussi. Merci Seigneur, tout se recoupe. Et ce message, je l'ai appelé Un cœur, une âme, unie et bénie. Alors, quand j'ai mis béni, c'est dans le sens général du terme béni. Ça peut être béni en matière de guérison, en matière de signes, de prodiges, Une conversion, c'est une bénédiction. Une parole de connaissance, c'est une bénédiction, etc. etc. Hein, ce terme-là, dans son sens général. Ainsi, Dieu prépare son Église, c'est-à-dire nous, individuellement et collectivement, pour agir puissamment à travers elle. C'est-à-dire, à travers chacun de nous, les racheter. Il la prépare à recevoir de grandes bénédictions et surtout à être le canal de ces bénédictions, individuelles et collectives. Et pour que ces bénédictions arrivent à destination, le canal ne doit être ni ensablé, ni obstrué. Vous avez sûrement vu, comme moi, la télé, il n'y a pas très longtemps, le canal de Suez, hein, avec un seul bateau, qui bloquait le passage de centaines de bateaux et empêchait toute l'Europe et les pays méditerranéens de recevoir ce qui leur était destiné, altérant fortement le bon fonctionnement économique de tout l'ensemble du continent. Alors l'Église, dont l'Église locale, est et doit rester un canal de bénédiction pour elle-même, son bon fonctionnement, mais aussi pour les autres, et veiller à ne pas freiner ou retenir les bénédictions que Dieu veut accorder à tous ceux qui nous entourent. Soyons conscients que nous pouvons être collectivement ou individuellement des freins ou des facilitateurs ou des accélérateurs. Amen. Et vous aurez probablement remarqué depuis plusieurs mois que les messages vont dans ce sens. Appelez que nous sommes à nous préparer. Alors pour m'en assurer, j'ai consulté mon petit carnet dans lequel je note les messages, notamment ceux reçus ici depuis le début de l'année, et voici les thèmes principalement abordés et les paroles que j'ai relevées. Ça va faire des petits rappels. D'abord, un fil conducteur. Vous vous rappelez de ce fil conducteur? Soyez imitateurs de Christ. On y reviendra. Donc gardez le regard fixé sur Jésus. N'est-ce pas le meilleur fondement pour se préparer à être les canaux que Dieu attend de nous? C'est dans le meilleur fondement. Parmi les autres thèmes et paroles, il y a eu « Revenez à votre premier amour ». Je cite, hein. « Écoutez la voix de Jésus ». Pensez utile, recherchez ce qui nous unit et non ce qui nous divise. Cultivez un cœur qui discerne, avancez en unité les uns avec les autres. Tout ça, c'est ce qui a été dit. Jésus prépare son épouse. Waouh. Soyez des sentinelles, c'est-à-dire attentifs. Veillez sur votre attitude de cœur. Et plus récemment, lors d'un puissant témoignage, pour ceux qui étaient là, nous étions aussi invités à développer notre esprit fraternel. Amen. Et si tout cela a été dit, ce n'est certainement pas pour rien, mais pour nous préparer à être ce canal fluide que Dieu veut utiliser pour faire avancer son œuvre. Et je terminerai, pas le message, la citation, cette petite revue des messages reçus au sein de cette assemblée par quelques extraits des paroles apportées au travers d'une vidéo appelée « Prophétie 2021 ». Vous vous rappelez de cela? Vous vous souvenez, c'était le 7 mars. Ça fait plus de 2 mois déjà. Mais malgré tout, ça reste encore frais, ça peut rester frais dans nos esprits. « Ne jouez plus à l'Église ». Soyez l'Église. Que les chrétiens se serrent les coudes. Dieu veut restaurer la relation intime avec lui et entre ses enfants. Et encore, Dieu attend des relations profondes entre ses enfants dans l'Église. Et la clé proposée pour ces relations profondes était, je cite, la communion, la communication, la compréhension. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Alors ceci ne ressemblerait-il pas à ce qu'est l'amour fraternel? Non? Non? Oui? Rappelez-vous ce que Paul nous dit dans Romains 12, 10. Comme les frères, ou comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frères, d'une affection vraie et profonde, estimez-vous mutuellement. Là, tout est dit, hein, beaucoup de choses sont dites. Hein. Je pourrais presque m'arrêter là. Bon, mais on va peut-être un peu détailler. Ceci nous rappelle quand même aussi ce que vivaient les premiers chrétiens. Juste après avoir entendu et accepté les paroles de Pierre et avoir été baptisé. Vous vous souvenez de cela? C'est dans Actes 2, 42. Ils se réunissaient constamment pour se faire enseigner par les apôtres, pour vivre comme des frères en communion les uns avec les autres, pour rompre le pain et prier ensemble. Tous les autres étaient profondément impressionnés, tous les autres, ceux qui n'étaient pas encore convertis, étaient profondément impressionnés et les respectaient, car les apôtres accomplissaient beaucoup de miracles, signes et prodiges, signes de l'intervention de Dieu. Tiens, c'est pas possible. Ah ben si, c'est bon. Signes de l'intervention de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? En numéro 1, et si les choses ont été citées dans cet ordre-là par Paul, c'est sûrement pour une raison bien particulière. Numéro 1, les disciples se réunissaient pour se faire enseigner. Ils se réunissaient. Ils ne restaient pas chez eux. En numéro 2, ils vivaient en parfaite communion les uns avec les autres. Ça veut dire qu'ils s'aimaient fraternellement. Numéro 2. En numéro 3, ils se rappelaient du prix inestimable payé par l'auteur de leur salut, Jésus, au travers de la fraction du pain. La fraction du pain, c'était bien cela, c'était pour se rappeler du prix inestimable payé par l'auteur de leur salut, Jésus. Et ensuite, ils priaient ensemble, sans aucun doute, d'un même cœur. Ainsi donc, ils se réunissaient, ils s'aimaient, les yeux fixés sur Jésus, et que se passait-il? Le Saint-Esprit intervenait puissamment au travers de cette assemblée, en touchant des cœurs et en accomplissant des miracles par le canal des apôtres. Amen. Et vous remarquerez que si des miracles s'accomplissaient, c'était bien que toute l'Église était en communion, en action. Toute l'Assemblée était en communion et en action. Pas seulement les apôtres. Aujourd'hui, on pourrait dire, pas seulement le pasteur, pas seulement les anciens. Mais toute l'Église était en action. Amen. Alors Jésus-Christ n'est-il pas le même, hier, aujourd'hui, éternellement? Hébreux 13, 8. Et le verset 9 dit, « Ne vous laissez donc pas entraîner par toutes sortes de doctrines séductrices venues d'ailleurs. » Malachie dit, « Je suis éternel, je ne change pas. » Dieu ne change pas. Les promesses de Dieu sont donc pour toujours. Ce qui s'accomplissait à l'époque des apôtres est donc encore vrai et possible aujourd'hui. C'est bien ce que dit cette parole. Du moins, c'est ce que je comprends. Vous comprenez la même chose. Alors, certains vous diront, peut-être, j'ai déjà entendu, que les signes, les prodiges, les miracles, c'était pour hier. C'était une autre époque. Qu'aujourd'hui, ça a dépassé. Qu'il faut garder les pieds sur terre. Soyez pragmatiques. Que notre société a évolué. Hein, on entend ces termes-là. Hein. Que sais-je encore? Qu'on n'est plus du temps des apôtres. Ça, j'ai déjà entendu aussi. Hein. Mais la parole de Dieu, elle, n'a pas changé. Toujours la même. Et notre foi doit rester fermement enracinée dans tout ce qui est écrit. Sur ce que Dieu dit. Et non sur ce qu'on nous montre. Ou prétend le monde, malgré sa science, sa technologie, ses prouesses au demeurant bien réelles, hein, on le constate, notamment en médecine, ce dont bénéficient aussi les chrétiens, merci Seigneur. Mais ceci ne remplace en aucun cas la parole de Dieu, le Tout-Puissant. Alors, pour en revenir au fait que les premiers chrétiens vivaient tous en parfaite communion les uns avec les autres. Certains, même parmi les chrétiens, diront que c'est vrai, mais qu'il n'est pas possible de connaître et d'aimer tout le monde dans une grande assemblée. Quand on est 100, 150, 200, 300, vous vous rendez compte, c'est pas possible. Ah bon? Croyez cela? Qu'a-t-il écrit dans Actes 4, 32? Tous ceux qui étaient devenus croyants, malgré leur grand nombre, étaient un cœur et une âme. Malgré leur grand nombre. Donc, ça veut dire que c'est encore possible. Vous vous rappelez les paroles prophétiques tout à l'heure de mars 2021 que les chrétiens se serrent les coudes. Dieu veut restaurer la relation intime avec lui et entre ses enfants. Dieu attend des relations profondes entre ses enfants dans l'Église. J'ai noté Dieu veut restaurer. Dieu veut restaurer. Dieu attend. Dieu attend des relations profondes. Ils étaient tous en communion et Dieu intervenait avec puissance au milieu d'eux. Alors vous avez sans doute remarqué que dans sa parole, Dieu met beaucoup l'accent sur les liens d'amour fraternel. Que nous devons entretenir donc les uns avec les autres. Et que ces liens sont le ciment qui relie et unit solidement les différentes parties du corps que nous formons. Elle lui donne sa stabilité, sa force, grâce à ces liens. Si les liens sont solides, le corps est solide et opérationnel. Si les liens sont fragiles, le corps est fragile et peu opérationnel, même s'il l'est un peu. Ce qui nous donne parfois l'impression que tout va bien. On se satisfait facilement de quelques bénédictions. Et merci Seigneur parce que tu agis. Mais il peut et veut aller bien au-delà. Amen. Je lisais récemment dans la revue Pentecôte une citation d'un des docteurs de l'Église du IVe siècle. Ça remonte, hein? Et qui est encore, il est le Seigneur, le même aujourd'hui, hier, éternellement. Que disait ce docteur de l'Église? Tout se désagrège, s'il n'y a pas l'amour. Dans un navire, si grand que soient les agrès, c'est-à-dire donc les éléments de gréement, c'est-à-dire le gouvernail, les voiles, les cordages, donc si grand que soient les agrès, s'il n'y a pas d'armature, ils sont inutiles. Dans une maison, s'il n'y a pas de charpente, il en est de même. Et dans le corps, si grand que soient les os, s'il n'y a pas de ligaments, ils sont inutiles. Il en va de même de nos actions. Tout s'en va s'il n'y a pas d'amour. Fin de citation. Donc on s'aperçoit que c'est une citation qu'on aurait très bien pu dire aujourd'hui. Hein. Et pour rester sur cette image du bateau à voile, on sait que le Saint-Esprit est là. Amen. Il souffle. Il souffle où il veut. Mais si les voiles sont arrimées à un mât fragile, le souffle du vent aura peu d'effet. Il risquera même de rompre le mât, si le mât ne tient pas. Cette notion prioritaire de l'amour vous rappelle certainement aussi ces paroles de Paul dans 1 Corinthiens 13. Et donc, dans ce chapitre, tous les versets sont importants. Mais pour résumer, j'en ai retenu un. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter des montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Vous imaginez ? Vous imaginez ? Je pourrais avoir dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter des montagnes. C'est balèze ça quand même. Hein ? Mais sans l'amour, je ne serais rien. Dieu met donc l'amour avant et très au-dessus de tout. Jean va même jusqu'à dire dans 1 Jean 4, 20-21, si quelqu'un ne peut pas aimer son frère qui est là sous ses yeux, il ne saurait aimer Dieu qu'il n'a jamais vu. Et Jean poursuit au verset 21 en nous rappelant ce commandement donné par Jésus, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Waouh ! En quelque sorte, aimer Dieu, non, donc aimer son frère, sa sœur, c'est bien sûr créer du lien, c'est lui faire du bien, ce qui est déjà très bien. Hein. Mais c'est aussi un acte et une preuve d'amour envers Dieu. Vous vous rendez compte ? Aimer mon frère, ma sœur, c'est aussi un acte d'amour envers Dieu. Coup double ! Coup double. C'est pas super, ça ? Ça vaut quand même le coup, non ? Alors, ce sont des paroles très fortes qui, personnellement, m'ont toujours interpellé. Et qui m'ont souvent amené à me poser la question sur ce que Dieu attend de nous quand il nous appelle à l'amour fraternel. Qu'est-ce qu'il attend de nous ? Car nous en avons souvent une perception très personnelle, très humaine et limitée. Principalement guidée par nos sentiments, notre perception visuelle des autres, et souvent bien des idées préconçues, qui nous amènent parfois à critiquer, juger, plus qu'à aimer. Alors que, Concernant donc l'amour, Jésus nous a donné un commandement. Donc que peut bien signifier aimer son frère quand Jésus nous donne ce commandement? Tout d'abord, si Jésus nous donne un commandement, il nous a bien donné un commandement à ce sujet, c'est qu'aimer, ce n'est pas si naturel que cela. À l'être de chair que nous sommes. Sinon, si ça avait été naturel, si ça n'avait pas demandé un effort, il n'aurait pas été obligé de nous donner un commandement. Jésus nous dit même, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? En cela, il nous dit quoi? Qu'aimer celui qui nous aime, c'est plutôt facile. Notre tendance étant d'aller d'abord vers ceux que l'on connaît, vers ceux de notre famille, mais c'est bien. Ceux du petit groupe avec qui on a l'habitude d'être, avec lesquels on se sent bien. Aussi vers ceux qui sont en vue, ou vers ceux qui ont à nos yeux une bonne tête. C'est ce que j'appelle notre zone de confort. Jésus nous dit, au travers de cela, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est naturel. Et les autres, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait des autres? C'est là que Jésus nous invite à aller aussi vers eux. Et ce n'est pas, je répète, uniquement l'affaire du pasteur ou des anciens, mais c'est celle de chacun d'entre nous, envers chacun d'entre nous. Amen. Rappelons-nous dans Acte 2, 42, on l'a lu, ils étaient premièrement réunis, en parfaite communion les uns avec les autres, puis bien sûr unis dans la prière, car rien ne se fait sans la prière, le regard tourné vers Jésus, et il s'accomplissait beaucoup de miracles, signes et interventions de Dieu, le Saint-Esprit agissait, et les autres étaient profondément impressionnés. Et quand je dis les autres, quand on relit bien la parole, c'est ceux qui étaient à proximité, mais pas encore convertis, pas encore baptisés. N'est-ce pas la meilleure façon d'évangéliser? N'oublions pas l'objectif numéro un de Dieu. L'objectif numéro un de Dieu, qu'est-ce que c'est? Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à une parfaite connaissance de la vérité. Et la façon dont les premiers chrétiens étaient organisés, ou dans la façon dont on y vivait, le but c'était quoi? C'était cela. Les autres étaient profondément impressionnés. Donc, par là, finalement, ils apportaient l'évangile, la parole de Dieu, à tous ceux qui les entouraient, et qui ne connaissaient pas encore parfaitement Dieu, et qu'ils n'avaient pas encore reçu pleinement dans leur cœur. Alors comment agir? Tout simplement, comme le dit Paul, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, comme Christ l'était de son Père. Notre fil conducteur depuis le début de cette année. Éphésiens 5, 1 dit « Comme des enfants imitant leur père, vous de même, enfants bien-aimés de Dieu, suivez en tout point son exemple. » C'est ce que dit la parole vivante. Le semeur dit « Suivez l'exemple de votre père. » La version Nouvelle Française Courant dit « Efforcez-vous d'être comme lui. » Encore cette notion d'effort. Donc, ce n'est pas naturel. Il y a un effort à faire. Alors, vous allez voir donc, j'ai dit, c'est tout simple. Bon. C'est pas si compliqué que ça. On va prendre quelques exemples sur qui ? Notre Père. Sachant qu'il y a bien d'autres exemples, ce que je vais vous apporter, c'est loin d'être exhaustif. On va prendre trois exemples. Sur la façon d'aimer l'autre, parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Hein, comme les premiers chrétiens vivaient les uns avec les autres, en communion parfaite les uns avec les autres. Premier exemple. Qu'attend Dieu de nous quand il nous demande de l'aimer ? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. On reprend un exemple sur lui. On va d'abord comment lui y fait. Et après, on verra comment on peut transposer ça à la façon dont nous pouvons faire. C'est ça l'exemple. Alors, au travers de « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée », il nous dit notamment, et c'est ce que l'on retrouve partout dans la parole, ne nous dit-il pas « Tourne-toi vers moi ». Pas moi, Gérard. Hein, c'est Dieu qui parle. « Tourne-toi vers moi. Approche-toi de moi. Cherche et apprends à me connaître. » Jésus dit à son Père, « Or la vie éternelle. » consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé. Jean 17, 3. Donc Dieu dit, cherche et apprends à me connaître, à savoir qui je suis. Tu vas me découvrir. Tu ne me connais pas, tu vas me découvrir. Et tu verras à quel point tu es précieux pour moi. Tout ce que j'ai prévu et que je veux pour toi, mais aussi que tu me consacres un petit peu de temps. Comment ? Eh bien, notamment en plongeant dans notre regard dans la parole qu'il nous a laissée, en s'approchant de lui, en parlant avec lui dans la prière, en prenant le temps de l'écouter, du plaisir dans sa présence, en lui disant combien il nous est précieux, en particulier pour l'œuvre de salut et de guérison accomplie à la croix, en prenant aussi plaisir à retrouver les enfants de sa famille, notre famille, parce que nous sommes la famille de Dieu, qui est notre famille. Ne serait-ce pas aussi l'exemple à suivre ? Parce que là, on a décrit ce que Dieu attendait quand il dit « Tu aimeras ton Dieu ». Ne serait-ce pas aussi l'exemple à suivre ? Soyez mes imitateurs. Lorsqu'il nous demande d'aimer notre frère, notre sœur, c'est-à-dire tourne-toi et approche-toi de lui. Ou d'elle. Cherche et apprends à le connaître. C'est exactement ce que Dieu fait vis-à-vis de nous. Hein. On transpose. Tu découvriras quelqu'un d'une grande valeur en s'approchant de ton frère, de ta sœur. Parce que si moi, ton Dieu, je l'ai choisi, c'est qu'il a une grande valeur que tu n'as peut-être pas encore découverte, mais que tu découvriras. Tu découvriras peut-être aussi ses besoins pour lesquels tu pourras prier et auxquels tu pourras même peut-être répondre. Peut-être pourras-tu l'encourager. Tu seras sans aucun doute une bénédiction pour lui. Et probablement qu'il sera aussi pour toi une richesse, au-delà de nos différences. Aimer Dieu est indissociable d'aimer son frère. Vous savez, la croix nous montre deux directions. Celle du ciel, vers lequel nous nous tournons, pour exprimer notre amour pour Dieu et recevoir le sien. Et l'horizontale, la direction de ceux qui nous entourent, vers lesquels nous devons nous tourner pour exprimer notre amour pour eux et diffuser l'amour de Dieu. Nous sommes des canaux qui recevons pour diffuser, sans obstruction. Ne fermons pas le robinet, car si on ferme le robinet, plus rien ne passe. Deuxième exemple. J'ai bientôt terminé. La manière pratique dont notre Père s'adresse à nous. Simple également. Très simple. Que dit Ésaïe 43:1 ? Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré et je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. De même, dans 1 Samuel 3:10, l'Éternel vint se placer près de lui et l'appela, comme les autres fois, Samuel, Samuel. Quant à Jésus, n'appelait-il pas aussi ses disciples par leur nom? Dieu serait-il différent aujourd'hui? Non, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous appelle encore aujourd'hui par notre nom, qui est chez nous notre prénom, hein, les Anglais disent « the first name », comme disent nos actions, notre premier nom. Il y a même un de nos chants, de Paul Baloche, qui dit, les musiciens, là, ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Un chant de Luc Dumont dit aussi, tu m'appelles par mon nom, tu me connais mieux que personne. En nous appelant ainsi par notre prénom, Dieu nous reconnaît une identité de personne unique, une valeur unique, nous montre qu'il nous connaît mieux que personne. Ne serait-ce pas aussi un exemple à suivre? On a vu donc la façon dont Dieu agit vis-à-vis de nous. Soyez ses imitateurs. Exemple à suivre. Avec nos frères et sœurs, le premier pas, finalement, ce prénom, pour construire un lien solide, une porte d'entrée pour entrer en communication avec quelqu'un, une grande marque d'intérêt que je peux apporter à mon frère, à ma sœur, et qui ne coûte rien. C'est gratuit. Pas grand-chose gratuit aujourd'hui, hein. Ça l'est. Je ne connais pas son prénom. Qu'à cela ne tienne, je lui demande. Et alors je commence ainsi à m'intéresser à lui, à elle, et apprendre à le ou la connaître sans être intrusif ni envahissant. Alors, ne craignons pas d'aller vers ceux vers qui nous n'allons pas naturellement. Si Dieu les a accueillis dans sa famille, c'est qu'ils ont une valeur à ses yeux. C'est vrai que Dieu voit et regarde directement au cœur. Nous, on regarde d'abord l'enveloppe. C'est notre frein naturel. Passons au-dessus de cela. Et faisons confiance à Dieu, à ce que lui voit. Dernier exemple. Dieu nous encourage. Dieu nous encourage. Les paroles d'encouragement de Dieu sont multiples dans la Bible. Rien que dans les psaumes. Relisez les psaumes. Vous allez voir la multitude de paroles d'encouragement qu'il y a dans les psaumes. Si un matin ça ne va pas, hein, que vous êtes à plat, prenez n'importe quel psaume, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de paroles d'encouragement. Mais pas que dans les psaumes. Hein. J'en ai retenu quelques-unes parmi les nombreuses paroles que Dieu nous donne. Ésaïe 41:10, ne crains rien, je suis avec toi, je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. 2 Corinthiens 1:3, il nous réconforte dans nos détresses. Romains 8:31, Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça fait du bien quand Dieu nous encourage, quand Dieu nous réconforte. Hein? Ceux à qui ces paroles ne font pas de bien, lève la main là. Donc ça fait du bien à tout le monde. Merci Seigneur. Eh bien, dans ce domaine aussi, nous sommes invités à prendre exemple sur lui. Paul dit dans 1 Timothée 5,11, c'est pourquoi il vous faut réconforter, il faut vous réconforter et vous encourager mutuellement à progresser dans l'unité. Mais aussi, veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. Ça peut tellement faire de bien à celui qui reçoit un encouragement. Mais pour cela, rappelons-nous qu'il nous faut au moins un peu connaître celui que l'on veut encourager. Sinon, on aura du mal. Alors n'hésitons pas, non seulement nous allons ainsi renforcer l'œuvre de Dieu, mais nous allons aussi apporter à l'autre un grand bien-être, comme le dit la parole dans Proverbes 16, 24, d'aimables paroles, j'aime ce verset, d'aimables paroles sont comme un rayon de miel, douce pour l'âme et bienfaisante pour le corps. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? On a tous ce pouvoir-là. Alors, ne nous en privons pas. Je conclue. Nous voyons donc que l'amour fraternel pratique est une excellente manière de servir et d'aimer Dieu, de rendre l'Église solide et active, et permettre à Dieu d'agir puissamment à travers elle. Je vais vers l'autre, je lui montre tout mon intérêt en m'adressant à lui par son prénom. Je converse avec lui pour mieux le connaître. Je l'encourage. Je réjouis son cœur. Et en ce sens, je sers Dieu et fortifie son œuvre, dans laquelle il devient alors doux et agréable de demeurer ensemble. Et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Psaume 133. Alors rappelons-nous bien de cet exemple de l'Église naissante. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières, et ils se faisaient beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Finalement, le programme est simple. Amen. Être un dans un lien d'amour. Un chant dit, tous unis dans un lien d'amour. Tous unis dans un lien d'amour. Il y en a déjà qui commencent à chanter. Là. Vous voulez chanter? Les musiciens, non? Non? Tous unis dans un lien d'amour. Allez-y. Tu peux l'afficher? Nous sommes un dans un lien d'amour. Tous est unis avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. On peut le répéter. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Alors soyons un cœur, une âme, unis et bénis. Amen. Soyez bénis.